Merci beaucoup Philippe pour cette introduction. Donc effectivement, je vais essayer aujourd'hui de vous parler d'un mariage, hein, celui de la résonance magnétique nucléaire ou encore RMN et cristallographie, sachant qu'il existe aujourd'hui une frontière commune. Alors, je pense qu'en cette année 2014, qui est l'année internationale de la cristallographie, on peut revenir à cette phrase de Francis Crick qui disait « If you want to understand function, study structure », et je crois que 60 ans après, eh bien c'est vrai, tout chimiste, tout scientifique qui travaille dans le domaine des matériaux doit tout d'abord travailler au niveau de la structure afin de comprendre la fonction, c'est-à-dire les propriétés. Et ça a été bien dit par Gérard Ferré en début de session. Alors, je voulais aussi rendre hommage à Rosalind Franklin et présenter ici un des clichés de diffraction qui, à mon sens, est le plus beau qui n'ait jamais été obtenu et qui a été utilisé par la suite par Watson et Crick. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la RMN en phase solide, et en particulier en science des matériaux? Il est hors de question de traiter aujourd'hui tous les aspects de la RMN. On va se focaliser sur la science des matériaux. Eh bien, par RMN, on peut s'intéresser au polymorphisme, et ça a été évoqué par Pauline dans le cadre des composés pharmaceutiques. On peut également étudier les matériaux hybrides qui correspondent à cette association intime entre parties organiques et parties inorganiques, ce que j'appelle ici des biosolides ou encore des protéines à l'état solide, mais également les nanomatériaux, voire les matériaux biologiques tels que les diatomées, ces magnifiques coques de silice amorphes qui sont synthétisées par des algues unicellulaires. Alors, que dire de la RMN? Elle est en constant, en perpétuel développement, et ceci pour deux raisons, à vrai dire. Non seulement la RMN s'intéresse à de nouveaux sujets, et ça, c'est régulier dans la littérature. Le but premier, en général, et l'essentiel du travail du chercheur dans ce cas-là, est d'attribuer les spectres, c'est-à-dire que les spectres correspondent à des empreintes digitales pour les molécules, pour les structures, et tout notre travail, c'est d'aller interpréter ces empreintes digitales de manière à remonter à la structure. Mais, depuis 10 ans, eh bien, est apparu ce que l'on appelle la RMN cristallographie, et c'est pour ça que j'ai proposé ce titre à Philippe Walter dans le cadre de ce colloque, sachant qu'en mêlant les prédictions ab initio, c'est-à-dire les méthodes de la chimie quantique, la résolution de l'équation de Schrödinger, eh bien on est capable de faire le lien entre diffraction des rayons X, par exemple, c'est-à-dire modèles structuraux, et RMN en phase solide. On va s'intéresser non pas seulement à la structure, mais aussi aux interfaces, et Dieu sait si c'est important, dans les composés complexes que l'on étudie aujourd'hui, les matériaux hybrides, les nanocomposites, les microcomposites, et la RMN, comme vous le savez sans doute tous, est également sensible à la dynamique, donc ce n'est pas quelque chose qui est statique, la RMN. La RMN s'intéresse à différentes gammes de fréquences, et donc elle a un rôle à jouer dans l'interprétation des phénomènes dynamiques temporels. Dans une deuxième partie de l'exposé, je vais vous montrer aussi que la RMN évolue, et ça j'ai envie de dire semaine après semaine en ce moment, non pas dans les sujets au niveau des sujets d'études, mais au niveau de la technique en elle-même. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les gens, par exemple, cherchent des méthodes de plus en plus sensibles, car il faut bien que je le dise ici, la RMN est sans doute la plus belle des spectroscopies, mais elle a un défaut, c'est qu'elle est peu sensible. Donc en gros, je vais vous montrer à la fin de l'exposé qu'il y a actuellement des méthodes qui sont en train de se développer de manière exponentielle et qui tendent à donner de plus en plus de sensibilité à l'expérience. Alors le plan est le suivant, j'ai réfléchi un moment et finalement j'ai utilisé l'affiche qui avait été proposée par Philippe, l'analyse chimique, histoire et innovation, donc on va s'intéresser dans un premier temps à l'histoire, et là je vais vous présenter très rapidement une saga de la RMN depuis les années 40, c'est une version personnelle, c'est une saga personnelle, il y en a bien d'autres. Ensuite nous nous intéresserons à ce qui fait le cœur du débat aujourd'hui, c'est-à-dire la RMN cristallographique, et je vais vous donner deux exemples d'applications, et j'ai décidé de m'intéresser au phosphate de calcium, on verra pourquoi, et au verre bioactif. Ce qui est intéressant, c'est que Pauline a montré qu'on pouvait aller plus loin aujourd'hui par les méthodes de diffraction des rayons X, de diffusion des rayons X, on pouvait aller plus loin dans l'étude des verres, et je vais vous montrer que la RMN également a son mot à dire dans l'étude de tels matériaux. Et dans une deuxième partie, eh bien, on va s'intéresser aux innovations. Innovation dans le gain de sensibilité, je vous parlerai de polarisation dynamique nucléaire, de magic angle coil spinning, de débruitage des spectres et également d'échantillonnage non uniforme. Voilà un petit peu le plan que je vais essayer de suivre. Donc je commence avec cette saga Cette saga débute finalement avec les pères fondateurs, ce sont des physiciens. Les pères fondateurs de l'IRMN sont des physiciens. Je pense tout d'abord à Isidore Rabi, qui a été le premier à démontrer le magnétisme nucléaire. On reviendra sur ce qu'est le magnétisme nucléaire dans quelques instants, dans les jets atomiques. Et véritablement, la RMN telle qu'on la connaît aujourd'hui est introduite dans le domaine scientifique par Bloch et Purcell, car ils arrivent à démontrer que ce phénomène est mesurable, bien que tout petit. Je rappelle, la sensibilité est faible, il est mesurable dans la matière condensée. On quitte les expériences de physique pure pour aller vers la matière condensée, c'est-à-dire des gaz sous pression, mais également des solutions et des solides. Là, je voudrais faire un clin d'œil à quelqu'un que j'estime beaucoup, Anatole Abraham, qui a été longuement professeur ici au Collège de France, qui a écrit un ouvrage dans les années 60, « Principles of Nuclear Magnetism », qui reste encore ce qu'on appelle la Bible de la RMN, et qui a, dans ce court passage, qui dit qu'effectivement, Bloch et Purcell étaient deux équipes concurrentes, côte ouest et côte est des États-Unis. Ils ont trouvé le phénomène de résonance en même temps, la même année, et le point clé était que pour mesurer du magnétisme nucléaire, c'était impossible par les méthode de magnétométrie classique. En revanche, si on se plaçait à la résonance, on verra ce qu'est la résonance, alors ça devient une technique exceptionnelle en termes de résolution, pas de sensibilité, de résolution. Un petit peu de poésie, Ed Purcell était au MIT. Regardez bien l'article dans PhysRev qu'il a publié et qui lui a valu le prix Nobel quelques années plus tard. Il a été publié en décembre 1945 et voilà ce qu'il dit dans ses mémoires. Il dit que lorsqu'il venait de trouver donc la première absorption des protons dans la paraffine, donc il avait un petit signal d'absorption des protons dans ce composé organique, et il a dit qu'il y avait donc de la neige à côté de mon laboratoire, et il s'est mis à penser à tous ces protons, sachant que les molécules d'eau, chaque molécule comporte deux protons, ces protons qui étaient en train de précesser, alors lentement certes, mais tranquillement, dans le champ magnétique terrestre. J'avoue que chaque fois que je vais au ski maintenant et que je vois de la neige, je ne peux pas m'empêcher de penser à Ed Purcell. Voilà, un pas en avant, et le pas en avant, ce sont les travaux fondamentaux de Jean Jenner et Richard Ernst, deux chimistes qui ont popularisé la RMN du fait qu'ils ont premièrement proposé pour Richard Ernst la RMN à transformation de Fourier, et c'est la RMN classique que vous connaissez tous aujourd'hui, qui a complètement détrôné la RMN telle qu'on la faisait au temps de Bloch et Purcell, c'est-à-dire par onde continue. Et on doit aussi à Jean Jenner dans une publication qui n'a en fait jamais été publiée, et Richard Ernst qui a été le premier à faire l'expérience, la notion d'RMN bidimensionnelle, c'est-à-dire que l'on va inclure dans l'expérience de RMN classique un temps d'évolution T1, une détection pendant T2 et après une double transformation de Fourier, on va aboutir à une carte bidimensionnelle en fréquence, nu1 et nu2, et à l'intersection de nu1 et nu2, on va avoir des interactions qui rendent compte de la proximité ou des connectivités entre spins. Vous voyez arriver toute la force de la RMN multidimensionnelle, c'est qu'au lieu d'avoir toutes les informations, toutes les empreintes digitales sur une dimension, et Dieu sait si ça peut être complexe, on le verra tout à l'heure, on est capable de mettre l'information sur deux, voire trois, voire quatre dimensions, et ça permet d'avoir une lecture beaucoup plus simple et une analyse beaucoup plus approfondie. Alors évidemment, une fois que la RMN à deux dimensions dans les années 1975 a été proposée, les physico-chimistes se sont emparés de la technique et ont créé les premières expériences à trois dimensions, à quatre dimensions, en utilisant les interactions RMN. On reviendra également sur ce que sont ces interactions RMN. Le déplacement chimique, on retient d'ores et déjà que je vais l'appeler delta par la suite. Pour ceux qui connaissent la RMN, il est en ppm, hein, c'est le déplacement chimique. L'interaction de couplage J, qui est une interaction qui lie deux noyaux entre eux, deux spins nucléaires, pour peu qu'il y ait un chemin continu de liaison entre ces deux noyaux, et l'interaction dipolaire. L'interaction dipolaire, c'est une interaction spatiale entre deux noyaux qui est directement reliée à la distance internucléaire. Ça, c'est un point très important pour la suite. Par RMN, on est capable de mesurer des distances internucléaires. Et donc, au jour d'aujourd'hui, finalement, le jeu des chercheurs, c'est de faire de la spin engineering, c'est-à-dire que l'on crée des séquences de plus en plus compliquées. Ça peut paraître totalement abscon pour les gens qui ne connaissent pas la technique, mais en fait c'est relativement simple à interpréter. C'est une succession de blocs que l'on connaît par cœur, NOSI, INEPT, je n'ai bien sûr pas le temps de les expliquer, mais qui sont finalement des blocs faits pour sélectionner, transférer, éditer, corréler entre les spins. de façon à arriver à la fin à une séquence qui vous permette d'interpréter par exemple des structures de protéines comme l'ubiquitine ici. Donc si vous êtes capable ici dans cette coupe qui correspond à une coupe dans une expérience 3D, azote 15, si vous êtes capable d'interpréter toutes les tâches de corrélation qui sont ici, alors vous remontez à la structure. Donc je rappelle, le prix Nobel de chimie a été décerné en 1991 à Richard Ernst pour ses travaux en méthodologie RMN, et Kurt Wüthrich recevra le même prix en 2002, vous voyez que c'est assez récent, on se rapproche de 2014, en 2002 pour les travaux qu'il a menés dans le cadre de la caractérisation de protéines, donc des structures tridimensionnelles en solution. Sachant que depuis les années 2000, le début des années 2000, il y a eu une extension de ce domaine de recherche aux protéines à l'état solide, alors qu'on pensait que ce serait totalement impossible. Pourquoi ? Parce que les raies de résonance, en général, en solide, sont beaucoup plus larges qu'en liquide, et il se trouve que des progrès considérables ont été effectués en haute résolution solide, et donc maintenant, on est tout à fait capable d'étudier des protéines de taille moyenne par RMN en phase solide. Alors, vous allez me dire, il manque quand même un aspect à l'histoire. L'aspect à l'histoire, ça, vous le connaissez en tant que citoyen, j'ai envie de dire, et patient. Vous connaissez tous l'IRM. Donc effectivement, si on combine les principes de la résonance magnétique nucléaire de la RMN et que si on ajoute des gradients de champ qui permettent de coder l'espace, alors on arrive à ce que l'on appelle MRI ou Magnetic Resonance Imaging, l'imagerie par résonance magnétique. Vous avez remarqué qu'à l'hôpital, le mot nucléaire n'est plus présent lorsque vous arrivez chez le chirurgien, pour la bonne et simple raison que quand les chirurgiens se sont emparés de la technique, ont essayé de la populariser à l'hôpital, eh bien les patients voyant le mot nucléaire partaient en disant non, finalement je suis guéri et je pense que ça ira très bien. Donc les médecins, mais c'est vrai, les médecins ont décidé de faire tomber l'adjectif nucléaire, et donc vous avez ici les images, deux images que j'ai choisies parmi des centaines de milliers accessibles sur le web, et vous voyez la précision des images obtenues ici par RMN du proton dans un cerveau par exemple, ou ici dans des poumons. Alors on doit cette découverte merveilleuse à deux très très grands scientifiques, Paul Lauterbur qui est décédé il y a peu et Peter Mansfield qui est devenu d'ailleurs Sir Peter Mansfield après 2003, lorsque tous deux ont été récompensés par le prix Nobel de médecine cette fois-ci, et vous voyez que ma saga est terminée, la boucle est bouclée d'une certaine manière, nous sommes partis des pères fondateurs qui étaient des physiciens, et nous avons ici deux personnes qui sont récompensées in fine pour leurs travaux en imagerie et en médecine. Alors qu'est-ce que la RMN ? Alors il se trouve que la RMN, c'est une propriété très générale qui concerne un grand nombre d'isotopes stables du tableau périodique. C'est-à-dire que pour certains isotopes, vous allez avoir un moment magnétique intrinsèque qui est lié à un nombre quantique non nul, qu'on appelle le nombre quantique de spin, et que je noterai par la suite grand I, et vous avez ici une collection d'isotopes qui possèdent un moment magnétique non nul et qui peuvent être l'objet d'études par RMN. Le plus connu est sans doute le proton, et ici j'ai listé pour les collègues organiciens et biologistes qui sont dans la salle, les noyaux d'intérêt, et vous voyez qu'il y a, outre le proton, le carbone 13, les deux isotopes de l'azote, l'oxygène 17, éventuellement, le phosphore 31. Et si on est plus inorganicien, ou si on est plus minéraliste, voilà quatre exemples de noyaux qui permettent d'envisager l'expérience de RMN. Vous remarquez que les nombres de spin quantiques sont demi-entiers ou sont un demi ou demi-entier, ou entier éventuellement, et on s'intéressera à deux noyaux en particulier, le calcium 43 et le strontium 87. Je les ai choisis un petit peu par provocation, c'est-à-dire que ce sont des noyaux qui sont très rarement regardés dans la littérature, mais qui vont nous intéresser, bien sûr, dans le cadre des phosphates de calcium et des bioverts dopés au strontium. Vous remarquerez, je le dis tout de suite pour la suite, que ces noyaux ont un nombre quantique strictement supérieur à 1,5, on les appelle donc des noyaux quadripolaires, et outre l'interaction de déplacement chimique que j'ai évoquée, il faudra tenir compte d'une interaction quadripolaire forte qui permet de séparer les noyaux entre eux en termes d'environnement, car la RMN est une technique locale. Alors là, c'est très important par rapport à tout ce qu'on a vu durant la matinée, c'est-à-dire les techniques de diffraction et de diffusion des rayons X, où, disons, la diffraction va être sensible à l'ordre à grande distance. La RMN est une technique vraiment locale, où c'est l'expérimentateur qui va aller choisir la fréquence de résonance en fonction du noyau, et c'est ce que l'on appelle la fréquence de Larmor, que vous voyez ici, nu0, qui est le produit d'une propriété intrinsèque du noyau, le rapport géomagnétique, gamma, multiplié par le champ magnétique externe. Et donc cette fréquence de Larmor, c'est à vous de l'adapter de manière à faire résonner dans le matériau que vous êtes en train d'étudier, le proton ou le carbone 13 ou l'azote 14 par exemple. En fait, la fréquence de l'art mort est une expression approchée. Il se trouve que si vous considérez une collection de spins nucléaires plongées dans un champ magnétique intense, et vous voyez ici la taille des champs magnétiques qui sont utilisés, de manière à avoir plusieurs dizaines de Tesla en champ B0, eh bien, en fait, il va y avoir une interaction entre B0 et les électrons qui sont en train d'orbiter autour du noyau, et ceci va conduire à un champ induit, c'est une sorte de réaction des électrons à la présence du champ magnétique B0. Ceci amène à une toute petite modification de la fréquence de l'Armor que vous voyez ici. Vous la reconnaissez, celle de départ, gamma B0 sur 2π, mais cette fois-ci modulée par un facteur 1 moins sigma, où sigma correspond à la fréquence d'écran. Cette fréquence d'écran est faible, mais c'est ce qui nous permet à nous, spectroscopistes RMN, de faire la distinction entre un proton A, par exemple, et un proton B, qui vont être séparés en fréquence du fait d'une différence dans leur environnement chimique. Voilà, toute la clé de la RMN, elle est ici, c'est ce petit facteur sigma qui permet de différencier les résonances, donc qui permet d'enregistrer des empreintes digitales pour les différentes molécules. Il y a d'autres interactions, je les ai déjà évoquées, le couplage J, le couplage dipolaire, et j'insiste une fois encore sur ce couplage quadripolaire pour les spins strictement supérieurs à 1,5, car nous en aurons besoin dans la suite de l'exposé. Alors, on peut se poser la question, quelles sont les fréquences caractéristiques qui permettent d'induire le phénomène RMN? Ce sont des radiofréquences. On a parlé longuement ce matin de rayons X. Les rayons X ont des longueurs d'onde qui sont très courtes, de l'ordre de Langström, et donc il y a un écart considérable entre les fréquences caractéristiques de la RMN et les fréquences caractéristiques des rayons X. Lors de l'exposé de Gérard Ferré, il y avait même un spectre électromagnétique, et vous avez vu à un bout, c'était à l'extrême gauche, les fréquences caractéristiques des rayons X, et à l'extrême droite se trouver à très très basse fréquence les fréquences caractéristiques de la RMN. Comment est-il possible de finalement relier RMN et cristallographie? Eh bien, en fait, il faudrait pour cela pouvoir faire la saga, une nouvelle saga, celle des rayons X, et je vais aller très vite ici puisque je répète, nous sommes dans l'année internationale de la cristallographie. La cristallographie est une technique qui est plus ancienne. Elle naît, disons, avec le XXe siècle, autour des années 1900 avec Röntgen, et elle est effectivement formalisée par Max von Laue. Les premières expériences, ça a été évoqué par Pauline, ont été effectuées par les Bragg, père et fils. Et effectivement, la saga ici des rayons X continue, puisque Dan Shechtman a reçu le prix Nobel de chimie il y a quelques années pour sa découverte dans les années 80 des quasi-cristaux. Et en fait, faire le lien entre RMN et cristallographie, c'est se poser la question du modèle. C'est-à-dire que lorsque vous enregistrez des données de diffraction, que ce soit par des rayons X, des neutrons ou des électrons, vous allez produire un modèle, et ce modèle, vous essayez de l'affiner de manière à avoir un accord le meilleur possible entre données expérimentales et données calculées. Et effectivement, si on est capable, à partir de ce modèle, de calculer les déplacements chimiques ou toutes les interactions RMN de tous les noyaux présents potentiellement dans la structure, alors on pourrait peut-être comparer les résultats obtenus par le calcul au spectre RMN. Et ça n'a pas été simple. Il a fallu finalement attendre deux avancées considérables. Premièrement, dans les années 50, Norman Ramsey, qui a été le premier à proposer une théorie complète et quantique du déplacement chimique, et non pas seulement ce que je vous ai fait avec les mains, A est différente de B, donc delta est différente de delta B, et aussi la contribution fondamentale de Walter Kohn à ce que j'appellerais la résolution de l'équation de Schrödinger en utilisant la théorie de la fonctionnelle de la densité. Et finalement, en combinant tous ces ingrédients, données de diffraction X, modèle, calcul des déplacements chimiques à l'aide des méthodes quantiques, alors on calcule les données de RMN, on compare au spectre RMN, et s'il y a une différence, alors hop, on peut retourner vers un affinement de la structure, de manière in fine à avoir un accord complet vis-à-vis des données de diffraction et vis-à-vis des données de RMN. Alors je vous dis que c'est l'histoire récente, là ce n'est plus une saga, c'est quelque chose qui est encore en plein développement, et du fait que cette technique que l'on appelle JIPO, je ne rentre pas dans les détails de l'acronyme, cette technique JIPO a été inventée par Chris Picard et Francesco Maori, qui est professeur à l'UPMC d'ailleurs, en 2001. Donc vous voyez que nous sommes aujourd'hui en 2014, et il se trouve que c'est, à mon sens, l'étape la plus franche, la plus fondamentale qui a été proposée en RMN du solide durant ces, disons, 15-20 dernières années. Alors, quels sont les ingrédients de cette méthode JIPO? C'est une méthode qui est basée sur la DFT, donc ça c'est clair, qui est absolument intéressante pour les systèmes périodiques. Elle va utiliser des électrons, des Hamiltoniens Hall électrons, et par l'utilisation de pseudopotentiels, on est capable, à partir d'une structure donnée, issue par exemple de données de diffraction X ou neutrons, on est capable de calculer pour tous les noyaux, pour tous les noyaux dans la structure, non seulement leur déplacement chimique, mais également les couplages J et aussi éventuellement les constantes quadripolaires pour les noyaux quadripolaires. Alors là, je dois dire que c'est Christelle Gervais au laboratoire qui a vraiment lancé cette thématique en 2001-2002, en collaboration au départ avec Francesco Maroi, et c'est elle qui a vraiment développé et poussé très loin l'analyse des spectres RMN par cette approche de RMN cristallographique, sachant que non seulement on peut donner des attributions, on peut céder dans le cadre de l'attribution, on peut également coupler la dynamique, je ne rentrerai plus dans les détails, je ne poursuivrai pas, mais il y a énormément de choses à faire justement entre les spectres obtenus à température ambiante qui incluent la dynamique et les calculs qui sont effectués à 0 Kelvin, et c'est une technique aussi, ça on en parlera tout à l'heure, qui, cette approche JIPO peut être étendue au solide amorphe, on en a parlé tout à l'heure avec Pauline. On est actuellement à la recherche de techniques qui permettent d'étudier ces solides désordonnés. Alors, ça a donné naissance à une nouvelle science, entre guillemets, bien que ce soit vraiment une intersection de deux sciences. Donc, c'est ce qu'elle s'appelle la RMN cristallographie, NMR cristallographie. Il y a des journaux qui sont, dans certains volumes, sont consacrés à des études par RMN cristallographie. Et si vous êtes intéressé, le groupe récemment a publié un article de revue assez volumineux où on passe véritablement au crible toutes les applications qui ont été proposées dans la littérature ces dernières années. Alors, on va prendre des exemples, bien sûr, il est temps de regarder, d'avoir des spectres et de les interpréter ensemble. Alors, j'ai choisi les phosphates de calcium pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ils font partie de nous, puisque l'hydroxyapatite qui est représentée ici, c'est la partie dure, la partie minérale de vos os et de vos dents. C'est un domaine aussi qui intéresse les paléontologues, les scientifiques qui s'intéressent aux apatites fossiles, les géologues qui s'intéressent aux roches sédimentaires à base d'apatite. Et également, il y a tout un volet, on va dire, médico-chirurgical qui est extrêmement important, puisque les phosphates de calcium, les ciments à base de phosphate de calcium, sont des composés couramment utilisés pour la réparation osseuse. Alors, pourquoi s'intéresser au niveau de la RMN aux hydroxyapatites et aux phosphates de calcium en général? Eh bien, ça, c'est la formule stoichiométrique de l'hydroxyapatite. Donc, c'est bel et bien un phosphate de calcium hydroxylé. Mais ce que l'on appelle une apatite biologique, c'est un objet qui est beaucoup plus compliqué, car c'est une structure qui comporte de nombreuses substitutions, qu'elles soient de type cationique, c'est-à-dire qu'on va remplacer certains atomes de calcium par du magnésium, du zinc, du sodium, du potassium. Et on va remplacer également des anions. Il y a donc des substitutions anioniques possibles. On va remplacer des phosphores ou des groupements hydroxyles par des sulfates, des carbonates, des fluorures, des halogénures en général. Et ceci nous amène finalement à un matériau qui a une structure, une charpente qui est relativement bien définie. Mais au niveau des distributions, là, on commence à avoir des problèmes, car il peut y avoir des distributions qui sont complètement, générales, c'est-à-dire que l'on va faire ça de manière statistique, ou bien on peut avoir éventuellement des clusterisations, c'est-à-dire que certains carbonates, pour prendre ces exemples, vont avoir tendance à se rapprocher les uns des autres au niveau du matériau substitué. Alors, en quoi la RMN cristallographie a permis de donner un éclairage nouveau à ces phosphates de calcium? Eh bien, lorsque nous avions commencé avec Christelle à valider cette méthode, eh bien, nous nous étions intéressés, dans le cadre des phosphates de calcium, bien entendu, au phosphore 31. Alors, pourquoi le phosphore 31? Parce que c'est un spin 1,5. Tout d'abord, il n'est pas quadripolaire. Et d'autre part, il a une sensibilité qui est très bonne, une abondance naturelle de 100%. Un gamma, rappelez-vous, le rapport géromagnétique est élevé, donc la fréquence de l'armor est élevée. Et cela veut dire que vous avez une sensibilité intrinsèque qui est forte. Et si on s'intéresse ici à l'arrêt qui correspond à la... On va pour le moment négligez les raies qui sont de côté, je vous demande uniquement de regarder cette raie qui est ici, dans le cadre d'un silicophosphate, donc vous voyez que c'est un enchaînement de tétraèdres contenant des siliciums et également des octaèdres, ça c'est relativement rare, liés entre eux par des groupements phosphates, et bien vous voyez qu'il y a un très bon accord entre la position, le déplacement chimique obtenu expérimentalement et calculé par JIPO. Et on a évidemment étendu l'étude, cette approche, à un grand nombre de composés phosphatés. Et vous avez ici une très belle corrélation entre les déplacements chimiques phosphore 31 expérimentaux versus les déplacements chimiques phosphore 31 calculés par la méthode JIPO. Alors vous allez me dire, oui, mais regardez, il y a quand même quelques points qui sont ici en gris clair, qui s'écartent un petit peu de la prédiction. Et en fait, lorsque vous lisez très attentivement les travaux, car ce sont des travaux de cristallographie, quand vous lisez très attentivement les papiers correspondants, vous voyez que les auteurs annoncent des difficultés dans la résolution structurale. Et j'en reviens à ce principe de la RMN cristallographie. Dans ces cas-là, on est capable de reprendre la structure initialement proposée et de l'améliorer par des contraintes qui, celles-ci, viennent exclusivement de la résonance magnétique nucléaire. Bon, évidemment, ce type de corrélation linéaire, on en a maintenant un grand nombre dans la littérature. Ceci veut dire que JIPO a été transposé de manière remarquable à un grand nombre de noyaux dans le tableau périodique. Alors, j'ai pris un autre exemple qui est celui de la brochite, qui est aussi un phosphate de calcium, cette fois-ci comportant deux molécules d'eau. Tout ceci pour vous montrer que non seulement les valeurs isotropes des déplacements chimiques pouvaient être calculées, mais si on fait des expériences en mode statique, à ce moment-là, la RMN solide en mode statique est un petit peu plus compliquée, vous ne récupérez pas seulement une valeur de déplacement chimique, mais trois, car c'est un tenseur de rang 2. Et donc, ces trois valeurs de tenseur, vous les lisez ici aux discontinuités du spectre. Et vous voyez que manifestement ici, entre le spectre expérimental en phosphore 31 de la brochite et le spectre calculé, il y a un accord remarquable. Ceci était très important. Non seulement les moyennes des valeurs propres étaient bien calculées, mais les valeurs en elles-mêmes, les valeurs extrêmes des tenseurs, étaient parfaitement calculées aussi. Nous avons aussi étendu cette étude aux protons, et là vous voyez qu'il y a, c'était un exemple très intéressant, deux molécules d'eau et un groupement OH, donc il y a a priori cinq protons différents, et vous voyez qu'ici vous avez le spectre expérimental en protons avec les attributions correspondantes, et il y a clairement un bon accord, ici vous avez le spectre calculé par JIPO, il y a un très bel accord entre le spectre calculé et le spectre expérimental. Alors pourquoi j'insiste sur le proton? Parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent la RMN du proton parmi vous, vous savez que la gamme de déplacement chimique est relativement faible en proton, elle est disons de 15 ppm, et vous voyez qu'en fait, le proton dans un groupement OH va être extrêmement sensible à la présence de liaison H, et votre proton va balayer en fait en déplacement chimique quasiment toute la gamme de déplacement chimique selon la force de la liaison OH. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, car en diffraction des rayons X, ça aussi, vous le savez tous, les protons sont difficiles à placer. La RMN, ici, clairement, a pour une fois, j'ai envie de dire, la primauté, c'est-à-dire que c'est la technique qui va vous permettre, finalement, de positionner correctement les protons, et ceci bien mieux que ne peut le faire la diffraction des rayons X. Bien sûr, vous pouvez envisager de la diffraction de neutrons, qui, elle aussi, donne des modèles, propose, amène à des modèles intéressants au niveau structural, que l'on peut introduire à leur tour dans l'approche RMN. Cristallographie. J'ai parlé tout à l'heure du noyau calcium 43, je reviens sur ce noyau qui est important puisque finalement on parle de phosphate de calcium. Je rappelle aussi que dans la nature vous avez des composés extrêmement importants que sont les différentes formes de carbonate de calcium, l'aragonite et la calcite. Vous avez aussi beaucoup de composés au calcium dans les bétons. Donc en gros finalement c'est un noyau qui est assez présent, hein, j'ai envie de dire, qui est difficile à étudier par RMN pour des raisons d'abondance naturelle, elle est très faible, de 0,14%, avec un gamma relativement faible. Mais globalement, on est capable, au jour d'aujourd'hui, je ne le présente pas là dans cette conférence, on est capable d'enregistrer des spectres calcium 43 de bonne qualité. Ce qui était intéressant, c'était de montrer que JIPO était capable, une fois encore, de prédire les déplacements chimiques isotropes en calcium 43 pour une grande gamme de composés, allant de l'oxyde de calcium jusqu'aux différents, aux polymorphes, aux différentes formes de carbonate de calcium. Et effectivement, vous voyez que la régression ici est assez jolie, elle est linéaire. Hein. Et expérimentalement, certains auteurs avaient rendu compte d'une différence assez notable de 30 ppm entre les noyaux calcium 43 à l'intérieur du carbonate de calcium de type calcite et du bicarbonate de calcium de type aragonique. Ça, ce n'était pas très facile à interpréter du point de vue cristallographique. Et en fait, la RMN fait très bien la différence et les calculs JIPO rendent compte aussi de cette différence d'une trentaine de ppm. Là, à ce niveau-là, nous étions très contents car c'était pour nous un test ultime, on va dire, de validation de JIPO en RMN du calcium 43. Deuxième exemple, on va quitter les matériaux, allez, on va dire cristallisés, substitués, pour aller vers des matériaux plutôt de type vert. Alors pourquoi s'intéresser à des bio-verts qui sont en général faits à base de SiO2, CaO et un petit peu de P2O5 et pourquoi s'intéresser à des verts qui sont dopés en strontium? Alors il se trouve que le strontium est un élément qui est assez actif contre l'ostéoporose et donc si vous regardez la littérature au jour d'aujourd'hui, vous verrez un grand nombre de publications mais également de brevets, en particulier au niveau des ciments contenant un certain dopage avec un certain pourcentage massif en strontium. Alors, il se trouve que le malonate de strontium est le médicament qui est utilisé aux États-Unis dans le traitement contre l'ostéoporose. Et vous avez ici l'article qui avait été publié à l'époque. Voici la structure. Vous avez ici les groupements malonate qui entourent l'atome de strontium, qui est un atome, enfin le cation strontium de plus, qui est assez volumineux. Et ce que nous avons fait dans un premier temps, car nous étions un peu les pionniers là, dans ce domaine de la RMN du strontium 87, qui est un noyau quadripolaire, 9,5, donc on s'attendait à des élargissements de raies quadripolaires considérables. Nous avons tout d'abord enrichi spécifiquement en strontium 87 en partant de strontianite marquée, en labellé en strontium 87, de manière à avoir un rapport signal sur bruit beaucoup plus fort qu'en abondance naturelle. Alors, pour la petite histoire, c'est une expérience qui nous est revenue quand même à 7 000 € au niveau de la synthèse pour avoir à la fin 50 ou 100 mg de produit, car ce composé-là, enrichi à 90% en strontium 87, est extrêmement onéreux. Ceci étant dit, à la fin, nous avons eu un très très beau spectre strontium 87. Je ne rentre pas dans le détail de la forme. Ceci dit, cette forme est très caractéristique de l'interaction quadripolaire et on peut mesurer par simulation les paramètres quadripolaires que j'appelle CQ et ETAQ, et un petit peu à l'image du déplacement chimique, même si ce n'est pas la même physique qui est derrière, qui est sous-jacente, à l'image du déplacement chimique, vous pouvez distinguer les différents strontiums les uns des autres par leur signature quadripolaire. On va prendre ça comme idée pour la suite. Alors, dans un deuxième temps, on s'est intéressé aux verres. Les verres ont été synthétisés par des collègues à Clermont-Ferrand. Vous avez ici les compositions obtenues par des méthodes sol-gel classiques. Et nous avons essayé, dans un premier temps, puisqu'on ne savait pas trop où on allait, nous avons essayé d'acquérir les spectres en abondance naturelle. L'abondance naturelle, j'ai oublié de vous le dire, du strontium est de l'ordre de 7%. Et vous voyez qu'en 60 heures, on a obtenu un spectre, certes, mais avec, disons, un rapport signal sur bruit relativement faible et qui était quasiment inexploitable. Donc, nous avons fait l'effort d'enrichir ces verres en strontium 87. Et là, en 10 heures, vous voyez le spectre qui a été obtenu, avec manifestement un très bon rapport signal sur bruit, mais des difficultés d'interprétation très claires. Alors, manifestement, il y avait des raies qui étaient relativement fines, bien que ça corresponde quand même à quelques milliers de ppm, là je ne rentre pas dans le détail, mais des raies, une composante, disons, relativement fine, superposée à une composante beaucoup plus large, et là nous avions des difficultés à comprendre. Si ce n'est que, dans le cas d'un silicate de strontium, qui était celui-ci, cristallisé, nous avions enregistré le spectre strontium 87, qui est représenté ici, et nous savions par la radiocristallographie qu'il y avait deux sites inéquivalents dans la maille, c'est-à-dire SR1 et SR2, et par les calculs JIPO, on avait prévu avant l'expérience qu'il y allait avoir un site caractérisé par une petite constante quadripolaire. Donc rappelez-vous, petite constante quadripolaire, sans doute un pic relativement fin, et une constante quadripolaire beaucoup plus forte. Donc a priori, on s'attendait à avoir un spectre avec deux composantes, l'une très large et l'autre relativement fine. Et c'est effectivement ce que nous avons obtenu. Nous avons pu simuler ce spectre expérimental avec deux composantes, et il se trouve que les constantes quadripolaires étaient vraiment un très bel accord avec ce qui avait été prévu bien avant l'expérience, j'insiste, grâce au calcul JIPO. Alors là, on s'est dit, finalement, est-ce que pour interpréter ce spectre de verre, il va falloir faire un modèle. Mais là, nous sommes dans le cas d'un composé vert, amorphe, il n'y a pas de SIF file, pour ceux qui connaissent, il n'y a pas de fichier avec les positions atomiques X, Y, Z. Donc, nous nous sommes tournés vers des collègues aux États-Unis, Jinzheng Du et son équipe, qui sont des spécialistes de la simulation de verre par la dynamique moléculaire. Donc, ils nous ont proposé des modèles comportant plusieurs milliers d'atomes. Et ces modèles, bien sûr, correspondant à des matériaux désordonnés, ayant les bonnes compositions chimiques, les bonnes densités. Ça, c'est très important d'avoir quand même un accord entre la densité expérimentale et la densité correspondant aux différents modèles. Mais là, bien sûr, ils sont arrivés avec des modèles comportant des milliers d'atomes, et la méthode JIPO nécessite une quantité de calcul qui est phénoménale, et donc il a fallu extraire de ces modèles à plusieurs milliers d'atomes, disons, des cellules comportant quelques centaines d'atomes. Et à partir de ceci, après une relaxation de type DFP dans le logiciel VASP, peu importe, nous avons effectué à partir de ces modèles les calculs JIPO en strontium 87. Et évidemment, l'idée, ça a été de comparer l'expérience et les paramètres JIPO. Et à notre grande surprise, les paramètres JIPO nous ont donné deux familles. Une famille caractérisée plutôt par des constantes quadripolaires relativement faibles et qui correspondent finalement à cette composante-là dans le spectre expérimental, et des sites caractérisés par des constantes quadripolaires monstrueuses de plus de 50, 60, 70 MHz, qui explique assez bien cette composante large qui est représentée ici. En gros, le spectre peut se décomposer en deux familles, une famille de strontium caractérisée par des constantes quadripolaires faibles et une famille de strontium caractérisée par des constantes quadripolaires très fortes. Alors, là, je me suis acharné, et je n'ai pas réussi, je me suis acharné à inverser, j'ai entendu tout à l'heure l'inversion du spectre, est-ce qu'à partir d'un CQ, à partir d'une constante quadripolaire, est-ce que j'étais capable de remonter de manière univoque, disons le plus univoque possible, à un environnement autour du strontium ? J'ai essayé beaucoup de choses, des approches mathématiques d'ailleurs qui m'ont bien intéressé, de symétrie continue développée assez récemment par David Avner en Israël, mais je n'ai pas trouvé au jour d'aujourd'hui une correspondance one-to-one, directe, entre un CQ en strontium 87 et un polyèdre de coordination autour de l'atome. Mais je ne désespère pas. Deuxième partie, je vais aller plus vite. Les innovations, donc là on va parler vraiment du futur proche, j'ai envie de dire, et revenir sur ce problème de la sensibilité. Alors si vous lisez cette phrase de Goodson, mais si vous ouvrez n'importe quel ouvrage de RMN, tous les ouvrages commencent par ce type de commentaire, la sensibilité de la RMN classique, telle qu'on la pratique dans les laboratoires, est nécessairement limitée. Pourquoi ? Parce que nous avons affaire à une polarisation nucléaire de spin faible, et ceci, quelle que soit la taille, la valeur du champ magnétique B0 que vous imposez au système de spin. Il n'y a rien de nouveau, c'est écrit en 2002, mais les pères fondateurs Bloch et Purcell l'avaient déjà écrit dans les deux articles de Fizeraev au milieu des années 40. Alors, il y a plusieurs méthodes, et c'est ça que je veux vous montrer aujourd'hui, pour essayer de gagner en sensibilité. On va essayer d'être astucieux, on va jouer sur toutes les étapes de l'expérience RMN, au niveau de toute la chaîne de mesure. Ça peut concerner la préparation de l'échantillon. On peut rajouter un ingrédient qui va, on va dire miraculeusement, qui va augmenter la polarisation nucléaire, et c'est ce qui s'appelle la DNP, je vais vous en parler tout de suite. On peut jouer aussi sur l'instrumentation, c'est-à-dire comment optimiser la transmission, l'émission et la réception du signal de radiofréquence au niveau de la bobine, et c'est pour ça que je vous parlerai ici d'une technique intéressante qui s'appelle Magic Angle Coil Spinning. Et puis, une fois que le signal RMN dans le domaine temporel a été enregistré, c'est ce qu'on appelle le FID, Free Induction Decay, on peut être un petit peu mathématicien dans l'âme, et on peut essayer de travailler sur ce signal de manière à améliorer la sensibilité. Je commence donc par la DNP. Un clin d'œil encore à Anatole Abraham. Cette technique a été pensée, inventée, on va dire, dans les années 50. Et Anatole Abraham a beaucoup contribué au développement de ce qu'il a appelé le solid effect, l'effet solide qui est un des effets qui peut être rencontré en DNP. Cette technique a disparu entre les années 50 et les années 90. Pourquoi ? Parce que les physiciens, là ils avaient fait une erreur, les physiciens avaient dit que de toutes les façons, cette technique était inversement proportionnelle, enfin, le gain était inversement proportionnel au champ. Donc plus le champ magnétique allait monter, moins l'effet DNP allait être important. Oui, mais au MIT, à partir de 90, Bob Griffin s'est accroché au problème, on peut dire ça comme ça, et il a démontré qu'il était possible à haut champ magnétique, par exemple ici c'est un 9,4 Tesla, 400 MHz pour le proton, il est possible d'induire encore l'effet de DNP. Comment ? Ben en ayant à disposition des sources intenses de micro-ondes, d'où l'importance du gyrotron. Et c'est finalement ça qui a ralenti un peu l'arrivée de la DNP, j'ai envie de dire, sur le marché, c'est la possibilité d'avoir accès à des gyrotrons commerciaux qui sont maintenant d'ailleurs commercialisés par la société Bruker. Alors comment marche la DNP ? Eh bien finalement, l'idée est la suivante. On va rajouter un espion, et cet espion ici, c'est l'électron célibataire. Alors par exemple, vous avez ici un biradical dans une solution H2O, il s'appelle le totapol, et vous voyez ici les deux radicaux. Et Abraham et Overhauser avaient démontré dans les années 50 que si vous saturez la transition RPE, du biradical, alors vous allez transférer, disons par effet Oberhauser ou par les couplages d'hyperfin, vous allez transférer de l'aimantation sur les noyaux. J'insiste, on sature la transition RPE des électrons et on récupère un gain énorme sur l'aimantation nucléaire, protons, silicium 29, carbone 13, etc. Alors, est-ce que cette technique marche? Eh bien, on revient à notre exemple fil rouge, j'ai envie de dire, de l'hydroxyapatite, mais cette fois-ci, on s'intéresse véritablement aux substituants, carbonate ou silicate. Et là, je vais vous resituer le contexte. Si, par exemple, on regarde une apatite biologique substituée, elles sont souvent substituées avec des carbonates, il y a à peu près 5% massique à l'intérieur de l'échantillon en carbonate. Si vous faites le calcul, cela correspond à 1% massique de carbone à l'intérieur de l'échantillon. Sachant que le carbone 13, qui est le seul isotope accessible par RMN, correspond à une abondance naturelle de 1%. Ça en fait des 1%. 1% massique, et vous ne regardez que 1% des atomes de carbone de ce pourcent. Bon, il est clair que faire de la RMN standard du carbone 13 dans ces apatites, c'est possible, mais ça demande des temps d'acquisition très longs. Alors là, quand je dis très long, c'est plusieurs jours, voire plusieurs semaines, si vous voulez faire des expériences multidimensionnelles. C'est un petit peu la même idée pour le silicium 29 dans le cas des silicates. Et voilà ce que nous avons fait assez récemment avec une collaboration avec Jeffrey Bodenhausen à Lausanne et les gens de Fabien Osnac, qui est donc ingénieur chez Bruker Biospin. Vous avez ici une expérience traditionnelle de RMN en carbone 13. On s'intéresse aux différents déplacements chimiques du carbonate à l'intérieur de la structure apatitique. Vous voyez le rapport signal sur bruit qui est obtenu en 2 minutes. Et vous avez ici le même signal obtenu en allumant, j'ai envie de dire, la saturation des électrons, c'est-à-dire en mettant en marche l'effet DNP. Et vous voyez que le gain en rapport signal sur bruit est considérable, on peut même le quantifier, et en utilisant différents biradicaux, on a été capable de montrer que ce gain allait d'un epsilon, disons de 23 à 42. Alors vous allez me dire, epsilon de 23 à 42, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, il faut comprendre ce paramètre epsilon comme également une approche du gain en temps. Et là, croyez-moi sur parole, pour avoir le gain en temps, il faut monter epsilon au carré. Et là, ça devient très intéressant parce que finalement, un epsilon de 23 correspond à un gain en temps qui est à peu près de 550 et un epsilon de carré à 2 de 1800. Alors hier, avant de faire la conférence, j'ai quand même regardez à quoi correspondait 1800 heures, et 1800 heures, c'est à peu près 2 mois et demi. Donc, en gros, vous ramenez à 1 heure des expériences qui, en toute théorie, devraient durer plusieurs semaines. Donc, vous imaginez que cette technique-là connaît actuellement un essor considérable, et je tiens à préciser que ce n'est pas une technique nouvelle au sens de la théorie, ça avait été fait dans les années 50, mais c'est vraiment la technologie qui a permis de mettre cette technique à la disposition des chimistes et des physico-chimistes. Alors je reviens sur ce problème des carbonatés. Il était impensable il y a quelques années, j'ai envie de dire, d'essayer de voir des proximités carbonate-carbonate à l'intérieur d'une hydroxyapatite. C'était quasiment impossible. Là, vous voyez ici qu'en faisant une double corrélation, une RMN 2D carbone 13, carbone 13, vous avez ici des tâches de corrélation qui permettent de nous dire que, par exemple, les sites A, je vous rappelle qu'on substitue certains OH de la structure des OH- par des carbonates, les sites de nature A voient certains sites de type B, c'est-à-dire que lorsqu'un groupe carbonate remplace un OH, il est en général proche d'un site B de type carbonate également. Donc là, également, je rappelle que ces gains en temps sont ce qu'ils sont, hein, ce sont des chiffres au tableau, mais cette expérience-là n'aurait sans doute pas été du tout possible par RMN standard sans apport de la DNP. Un dernier exemple pour vous montrer aussi que la DNP est très générale dans le cadre de ces matériaux et on peut par exemple faire la DNP au niveau du noyau silicium 29 pour étudier les substitutions par des silicates. En absence de DNP, rien en 12 minutes, un très beau signal ici d'unité Q0 à l'intérieur de l'apatite et la possibilité sur quelques heures d'enregistrer des expériences 2D proton-silicium qui sont en parfait accord avec des modèles qui avaient été obtenus à partir d'expériences de Rietveld et ces modèles avaient été proposés par des collègues de Clermont-Ferrand. Là, une fois encore, un aller-retour entre diffraction sur poudre et RMN, d'accord, donc RMN cristallographie. Un dernier thème, je vais aller assez vite, c'est un qui correspond à des objets biologiques cette fois-ci, qui sont complexes. Hein. Pour moi, ce sont de devrait multicomposer, peut-être disons nano ou micro-composés, que sont les calculs rénaux. Alors, les calculs rénaux, ce sont des composés qui contiennent certes de l'hydroxyapatite, on reste dans le cadre des phosphates de calcium, mais qui contiennent aussi de nombreuses phases de type oxalate de calcium hydraté. Et comme vous le savez, ce sont des assemblages complexes, des hybrides au sens propre du terme, puisqu'il y a à la fois des phases minérales, mais également des protéines, des triglycérides, d'où cette difficulté à les interpréter du point de vue spectroscopique, sachant que, si vous voulez proposer une interprétation complète, vous devez être capable d'aller finalement d'une description nanométrique jusqu'à une description macroscopique. Je rappelle au passage qu'en France, la néphrolithiase, c'est-à-dire les calculs rénaux, c'est quand même un coût, un budget qui correspond à peu près à 600 millions d'euros par an. Les techniques RMN se prêtent parfaitement à l'étude de ces composés complexes. Vous pouvez utiliser tous les trucs de la RMN pour essayer de séparer les unes des autres les différentes composantes en donnant plus de poids, par exemple, aux oxalates, plus de poids aux parties protéines, un poids, on va dire, 100% aux parties triglycérides. Ça, c'est tout le jeu de la RMN. Donc, ces objets s'y prêtent parfaitement. Et vous avez ici l'expérience qui a été faite récemment avec César Leroy, qui est en thèse sur le sujet, où l'effet DNP marche remarquablement bien. Donc là, une fois encore, on s'attend à des gains en rapport signaux sur bruit monstrueux et avec des réductions en temps expérimentaux très fortes. Mais il y a quand même une difficulté, c'est que le solvant qu'on a utilisé, à savoir D2OH2O, a une facilité plus grande à aller recouvrir les protéines que la partie minérale. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on sous-estime la partie minérale par rapport à la protéine. Là, il y a tout un sujet. Il y a tout un débat qui peut être ouvert et ce seront sans doute de nouvelles expériences à tenter. Alors, je pense qu'il me reste peu de temps. Je vais aller vers une autre technique qui est finalement celle de l'utilisation du signal. Alors, imaginez que vous ayez un signal, il a été enregistré. Et je vais vous montrer que finalement, on peut utiliser ce signal RMN comme un objet purement mathématique. Alors, vous allez voir, c'est un peu bizarre. Vous avez ici une collection de points qui correspondent au FID, c'est-à-dire à la réponse de votre système de spin à l'impulsion de radiofréquence qui a été envoyée ici. Ce sont les valeurs en rouge. Vous les mettez dans une matrice dite de Hankel. Vous travaillez un peu la matrice de Hankel jusqu'à sortir les valeurs singulières qu'on appelle sigma et vous mettez à zéro les valeurs singulières les plus petites qui correspondent en général au bruit. Et après, vous reconstruisez un spectre par une démarche inverse. C'est ce qu'on appelle du denoising ou encore du débruitage et à l'aide de ce qu'on appelle donc le singular value decomposition qui est un procédé mathématique parfaitement calibré et connu. Et vous voyez qu'effectivement, on peut, à partir d'un spectre bruité, vous vous rappelez du spectre strontium avec des composantes larges et des composantes fines, on va imaginer que votre spectre soit bruité, et bien à partir de ce traitement numérique, qui est exclusivement numérique, vous pouvez remonter à un spectre qui est ici en bleu clair, qui rend compte parfaitement de votre spectre initial. Et vous imaginez ici également à rebours que pour avoir finalement les données du spectre bleu clair, il suffit d'accumuler encore moins de temps le spectre noir, et en appliquant le denoising, vous allez remonter à toutes les informations structurales, d'où des applications potentielles, surtout au niveau des noyaux qui sont peu sensibles, comme par exemple le silicium 29, ou alors des cas plus pathologiques, comme le calcium 43, on l'a vu tout à l'heure, ou le magnésium 25, qui est un substitut, le magnésium étant aussi un substituant des hydroxyapatites. Là, c'est juste pour vous montrer qu'à partir d'une image, vous pouvez utiliser ce traitement SVD, et si vous ne mettez pas le bon nombre de valeurs singulières, ben évidemment, ça, c'est complètement flou. Et puis, à partir d'un certain moment, vous ne faites plus la différence entre l'image de départ et l'image d'arrivée qui a été reconstruite. Donc, c'est ça un petit peu l'approche SVD. On va aller enlever un certain nombre de valeurs de manière à débruiter le signal de départ. Une dernière chose, c'est ce que l'on appelle le non-uniform sampling, développé à partir des années 2008-2009 par des mathématiciens, là j'insiste, vous avez Terence Tao par exemple qui a participé énormément au travail, qui a quand même eu la médaille Field il y a quelques années, Emmanuel Candès qui s'intéresse à ce qu'il appelle les mathématiques de la parcimonie. La mathématique de la parcimonie, c'est revenir à l'expérience bidimensionnelle, vous vous rappelez, de Richard Ernst, où il y avait finalement une collection de FID qui était enregistrée de manière selon une grille qui était de ce type-là, carré, où on remplit complètement, où l'échantillonnage est uniforme. Eh bien, on est capable de montrer aujourd'hui qu'en en enregistrant un nombre très limité de valeurs. Regardez, hein, on a fait quelques expériences par rapport à celle-ci, et en utilisant des procédés mathématiques de reconstruction très robustes, on est capable d'avoir exactement les mêmes spectres, mais en beaucoup moins de temps. Ici, un exemple qui est quand même très important sur une HCNO dans l'ubiquitine, qui est une protéine. 36 heures en triple Fourier transform classique versus 25 minutes avec ces nouvelles méthodes de reconstruction. Vous voyez que les cartes sont parfaitement comparables, et ça, ce n'est pas joué sur l'instrumentation, ce n'est pas joué non plus sur la préparation de l'échantillon comme en DNP, c'est vraiment travailler au niveau du signal et surtout se poser la question de combien ai-je besoin d'informations au départ pour avoir à la sortie le nombre maximal d'informations requises. Je tiens à dire à ce propos que c'est Guillaume Laurent, qui est ingénieur d'études au laboratoire, qui a vraiment implémenté ces techniques, le premier au laboratoire, et il poursuit sa thèse sur ce thème. Un chiffre à garder en tête, il est admis au jour d'aujourd'hui que vous gagnez un facteur 3 à la puissance n-1, n étant le nombre de dimensions de votre expérience, lorsque vous utilisez ces méthodes numériques mathématiques, et donc pour une expérience tridimensionnelle de type HCNO, à ce moment-là, n égale 3, et vous avez donc un facteur 9, disons un facteur 10 en réduction de temps expérimental, ce qui est vraiment quelque chose de remarquable. Je conclus en disant, la saga de la RMN continue-t-elle ? Oui. J'ai pris au hasard dans Science et dans PNAS des articles extrêmement récents. Encore 3 possibilités d'augmenter le rapport signal sur bruit de manière significative. Est-ce que ce sont des méthodes robustes ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, les gens travaillent de manière acharnée à cette augmentation du rapport signal sur bruit. Le titre de cet article est quand même assez évocateur. Les auteurs annoncent un spectre RMN, finalement, sur un volume de 5 nanomètres cubes. C'est quelque chose qui, il y a quelques années, aurait été totalement impensable. On nous aurait pris pour des fous si les gens de la RMN avaient osé dire qu'ils pouvaient être capables de détecter du signal à partir de 5 nanomètres cubes. Je remercie tous les collaborateurs du laboratoire, essentiellement Christelle Gervais, pour tout son apport en RMN cristallographique, la méthode JIPO, et également Dominique Bazin, une très forte collaboration au niveau de l'étude des calculs rénaux, et Guillaume Laurent pour l'aspect de non-uniform sampling, les collègues également en France, et je vous remercie, vous, pour votre attention.